Avant de donner la parole à Christophe Soulard, quelques mots. Vous avez compris qu'il allait nous parler du rôle, notamment donc du rôle du Conseil supérieur de la magistrature, dont Jean-Marc Sauvé, il y a quelques semaines, nous a dit qu'en termes de ressources humaines, il lui fallait concilier son action, notamment avec la direction des services judiciaires, c'est-à-dire la direction du personnel du ministère de la Justice. Il va nous parler de la responsabilité des magistrats, est-elle mise en œuvre, et de la manière dont on accède aux fonctions de responsabilité. Comment devient-on chef de cour d'appel, chef de tribunaux, notamment. C'est notamment de tout cela qu'il va nous parler, et c'est un très grand honneur qu'il nous fait. Et il complétera ainsi la première séquence de ce programme de l'année 2024, qui était une sorte de présentation de l'état des lieux. Présentation rapide, mais présentation somme toute assez importante. Avant que nous n'abordions, à compter du lundi 26 février, une nouvelle séquence qui est à la fois historique et actuelle sur la politique et les juges et la politique, la politisation des juges. Je pense que c'est intéressant et que ce sont des questions que vous vous posez. Avant, qui est notre invité ? Il faut que vous sachiez que le premier président de la Cour de cassation, ici présent, est à la fois un juge, ce qui paraît aller de soi, dans tous les sens du terme. Il le fut à Metz, il le fut à Paris, il le fut à la Cour de cassation, à la Chambre criminelle où il sera conseiller référendaire longtemps, puis conseiller, puis doyen de cette chambre, en tout cas d'une des sections de cette chambre, puis président de cette chambre, avant de devenir, en juin 2022, le premier président de la Cour de cassation. Il faut que vous sachiez que Christophe Soulard est également un spécialiste incontesté et reconnu du droit fiscal et douanier, du droit communautaire. Il sera lecteur d'arrêt à ce qui était encore la Cour de justice de la Communauté européenne. Il sera membre, puis président de la Commission de conciliation et d'expertise douanière, membre du Comité du contentieux fiscal, douanier et d'échange, membre de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers. Et il fut un enseignant en qualité de dirigeant du Centre européen de la magistrature et des professions juridiques rattaché à l'Institut européen d'administration publique, qui forme des magistrats de différents pays aux questions de droit européen. Il fut également professeur associé aux universités de Strasbourg et de Metz. Christophe Soulard est donc un juge ouvert sur le monde. Figurez-vous qu'il en existe. Vous avez la parole, Christophe.
Monsieur le chancelier, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les membres de l'Académie des sciences morales et politiques, mesdames et messieurs, c'est pour moi un honneur de m'exprimer devant une assemblée si prestigieuse, et c'est un plaisir de vous y retrouver, cher Bruno Cotte, cher Bernard Stine, vous qui savez comme moi combien est difficile et délicate la mission du juge. Il est rarement approuvé, souvent critiqué, et il lui est interdit de répondre à titre individuel à ses critiques. Je ne prétendrai pas qu'elles soient toujours infondées, mais il s'y mêle souvent une part non négligeable d'incompréhension et de méconnaissance de ce qu'est l'institution judiciaire. Or, celle-ci occupe une place importante dans la vie quotidienne de chacun, et constitue un rouage essentiel de la démocratie. Attaquer la justice de manière inconsidérée déstabilise l'ensemble des institutions dans un mouvement mortifère. Aussi ne peut-on que se féliciter de ce que votre Académie ait retenu cette année la justice pour thème de réflexion. Quel meilleur vecteur pour éclairer nos concitoyens qu'une assemblée qui, animée en cela par l'esprit des Lumières, a pour vocation de proposer une information fiable et un avis raisonné sur les débats qui intéressent l'avenir de la société. Dans le cadre d'un cycle de conférences très complet, il m'a été demandé de vous parler plus particulièrement du Conseil supérieur de la magistrature, le CSM. Je vais le faire, bien entendu, mais pas tout de suite, car pour bien saisir les enjeux que soulève son rôle et sa composition, il faut aller chercher sa raison d'être dans les exigences sur lesquelles est fondée la légitimité des magistrats. Ce questionnement est d'autant plus nécessaire qu'il permettra de comprendre pourquoi cette institution, qui n'existait pas sous la Troisième République et qui joua un faible rôle sous la Quatrième, a vu son importance et son indépendance croître sous la Ve République. Le constituant ne s'est pas opposé à ce double accroissement et l'a même favorisé en prévoyant notamment en 2008 que les formations du CSM ne seraient plus présidées par le président de la République, mais par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la dite cour. Permettez-moi de partir d'une question simple. Qu'est-ce qui fonde la légitimité du juge ? Cette question est souvent posée et en elle-même, cette question est légitime. En France, à quelques exceptions près, les juges ne sont pas élus. Certains y voient un révis rédhibitoire. On peut y voir au contraire un facteur stimulant. Privés d'une reconnaissance qui leur serait donnée a priori, les juges ne peuvent asseoir leur légitimité que sur un savoir général et sur une pratique. Ce savoir général, c'est celui que sanctionne un concours et que développe une formation continue. Mais cette pratique, quelle est-elle ? On pourrait la résumer en disant que le juge statue de manière indépendante et impartiale, en prenant en considération tous les arguments que les parties au litige ont échangés contradictoirement et auxquels il prête une attention particulière. La collégialité apporte une garantie supplémentaire en permettant à chacun, à chaque juge, de prendre conscience des biais qui pourraient fausser son jugement. Ainsi, il apparaît dès l'abord que l'existence de règles déontologiques et leur respect par les juges sont des ingrédients essentiels de leur légitimité. Dans un ouvrage qu'il a consacré en 2014 à la déontologie des fonctions publiques, le président Christian Vigouroux, qui est aujourd'hui membre du CSM, a écrit que la déontologie est l'art de créer de la confiance chez le citoyen. On ne saurait mieux marquer son importance. Mais entrons plus avant dans la description des règles de comportement que doit suivre le juge. Il y a d'abord l'indépendance. La notion renvoie à la séparation des pouvoirs, dont la logique implique que le juge ne reçoive d'instructions ni de la part du Parlement, ni de la part du gouvernement. Mais l'exigence est plus large. Le juge doit être également indépendant des médias, de l'opinion publique, des groupes de pression et des acteurs économiques. Les magistrats du parquet doivent aussi se montrer indépendants et cette indépendance a été consacrée par le Conseil constitutionnel. Elle se décline toutefois de manière particulière car s'ils ne peuvent recevoir d'instructions individuelles, les parquetiers doivent néanmoins mettre en œuvre la politique d'action publique arrêtée par le gouvernement. Cela justifie qu'ils s'inscrivent dans une hiérarchie. L'indépendance n'est pas instituée dans l'intérêt des magistrats, mais au profit des justiciables. Elle leur garantit que la solution apportée au litige ne sera pas commandée par autre chose que l'application de la règle de droit. L'indépendance n'est pas la même chose que l'impartialité, et d'ailleurs, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme stipule que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. La Cour européenne des droits de l'homme définit l'impartialité comme l'absence de préjugés ou de parti pris et opère une distinction entre impartialité objective et impartialité subjective. L'impartialité subjective renvoie à ce que le magistrat ressent en son for intérieur. Elle est une exigence non seulement pour les juges, mais aussi pour les membres du ministère public. Mais est-il raisonnable d'exiger du magistrat qu'il aborde une affaire vierge de tout présupposé, alors qu'il a lui-même été façonné par une histoire personnelle, un milieu social, éventuellement des convictions religieuses, et en tout cas une attitude par rapport à la religion, sans parler tout simplement de l'expérience qu'il a pu avoir d'autres affaires similaires. Le juge aux affaires familiales est souvent lui-même marié et père ou mère, le juge chargé du contentieux des loyers est généralement lui-même propriétaire, locataire ou bailleur, le juge pénal peut avoir parmi ses amis ou au sein de sa famille des personnes qui ont été poursuivies. Au demeurant, c'est précisément cette épaisseur humaine et cette expérience qu'on demande au juge d'avoir. Comment faut-il, dans ces conditions, aborder l'exigence d'impartialité subjective ? Je dirais qu'il faut l'aborder objectivement. Je veux dire par là qu'il faut développer des modalités institutionnelles permettant de réduire l'impact des préjugés sur la décision. Ces modalités peuvent se résumer en deux mots. Discussion collective. Une décision de justice n'est jamais une œuvre individuelle, même lorsque la formation de jugement est composée d'un juge unique, ce qui est malheureusement trop souvent le cas. Le juge prend sa décision sur la base des arguments échangés entre les parties, et son rôle est précisément de favoriser cet échange. Il n'est pas tenu, à cet égard, à un rôle purement passif. Il peut demander aux parties, au cours de l'audience, de préciser le sens de tel ou tel argument avancé par elles, voire de répondre aux objections qu'on pourrait y opposer. Le deuxième niveau de discussion est le délibéré. Le délibéré n'est pas un scrutin avec explication de vote. C'est une alchimie au cours de laquelle chacun intègre dans sa réflexion ce que disent les autres et se départit ainsi de ses propres affects. Les considérations d'amour-propre disparaissent. Il faut miser ici sur un effet de contagion. Chacun accepte que sa première opinion soit contestée parce qu'il sait que les autres accepteront les critiques qu'il formera lui-même. J'allais dire à leur encontre, mais précisément ce n'est pas à leur encontre. Il ne doit pas y avoir d'attaque ad hominem dans un délibéré, de même qu'un délibéré ne départage pas des vainqueurs et des vaincus. Le caractère collectif de la prise de décision est ce qui permet au juge de se prémunir contre les risques de partialité subjective. Mais, je l'ai dit à l'instant, l'exigence d'impartialité ne se limite pas à l'impartialité subjective. Elle porte aussi sur l'impartialité objective. Contrairement à l'impartialité subjective, l'impartialité objective se situe sur le registre de l'apparence. Elle est la déclinaison de l'adage anglais « Justice must not only be done, it must also be seen to be done ». Ce qui veut dire que même si le juge se sent libre dans sa tête de tout attachement, encore faut-il que les parties au litige en soient eux-mêmes persuadées. L'autorité de la justice repose sur la confiance que les justiciables lui accordent. Elle est sapée par toute atteinte qui pourrait être portée à cette confiance. C'est pour conjurer ce risque d'atteinte à l'impartialité objective que des règles de déport ont été instaurées. Le magistrat se déporte à chaque fois qu'il apparaît qu'il a un lien, direct ou indirect, avec l'une des parties ou qu'il a pris déjà position sur un élément du dossier. La règle est simple dans son énoncé, mais sa mise en œuvre n'est pas toujours aisée, quel que soit le cas de figure visé, à savoir un lien avec une partie ou le fait d'avoir pris position sur un élément du dossier. Le lien qui oblige à se déporter peut être indirect, mais jusqu'où faut-il aller ? Le fait d'avoir un compte courant dans une banque justifie-t-il qu'on se déporte dans une affaire où cette banque est partie ? Le critère tenant au fait d'avoir pris position n'est pas d'un maniement plus aisé. Faut-il considérer, par exemple, que le juge des libertés et de la détention qui a placé en détention une personne mise en examen ne peut pas siéger dans la formation correctionnelle qui juge cette même personne ? Certes, pour mettre en examen une personne, il faut relever contre elle des indices graves ou concordants de ce qu'elle a commis les faits incriminés et donc porter une appréciation sur ces faits. Mais ce n'est pas le juge des libertés et de la détention qui met en examen. Le placement en détention provisoire, lui, répond à des critères dont certains ne supposent pas une appréciation des faits. Tout dépend donc du point de savoir si le JLD qui siège au tribunal correctionnel avrait apprécié les faits dans le cadre du placement en détention provisoire ou de la prolongation de cette détention. C'est aussi pour préserver la confiance dans la justice que l'article 10 de l'ordonnance qui fixe le statut des magistrats interdit au corps judiciaire toute délibération politique et aux magistrats toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République. Mais de manière plus générale, les magistrats sont tenus à un devoir de réserve. Dans un avis qu'il a rendu récemment au ministre de la Justice, le Conseil supérieur de la magistrature a rappelé que l'expression publique d'un magistrat est-ce qualité, quel qu'en soit le support, nécessite la plus grande prudence afin de ne porter atteinte ni à l'image ni au crédit de l'institution judiciaire, ni à l'exercice impartial de ses fonctions, ni à la réserve qu'imposent ses fonctions. Ainsi, les magistrats ne doivent pas compromettre l'image d'impartialité et de neutralité de la justice, indispensable à la confiance du public, ni porter atteinte au crédit et à la dignité de l'institution judiciaire et des juges. La parole du magistrat est en effet reçue comme l'expression d'une appréciation objective qui engage non seulement celui qui s'exprime, mais à travers lui, l'institution tout entière. Mais sous cette réserve, les magistrats peuvent s'exprimer librement. Il y a sur ce point une convergence de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, de la Cour européenne des droits de l'homme, du Conseil d'État et du Conseil supérieur de la magistrature. Il a notamment été souligné que la liberté d'expression des magistrats n'est pas consacrée pour le seul bénéfice des magistrats, mais qu'elle constitue une garantie pour chacun des justiciables. Les magistrats qui exercent leurs fonctions avec indépendance, constituant ainsi l'un des piliers de l'État de droit, ont le devoir de faire le nécessaire pour préserver ce dernier, ainsi que les autres valeurs fondamentales dont ils sont les gardiens. Les obligations déontologiques des magistrats sont énoncées dans le serment qu'ils prêtent lors de leur prise de fonction. La formule de ce serment vient d'être modifiée par le législateur. Elle est désormais la suivante : je jure de remplir mes fonctions avec indépendance, impartialité et humanité, de me comporter en tout comme un magistrat digne, intègre et loyal, et de respecter le secret professionnel et celui des délibérations. L'indépendance, l'impartialité, l'humanité et le secret professionnel, qui va au-delà du secret des délibérations, ne figuraient pas dans la formule initiale. Mais inutile de dire que l'indépendance et l'impartialité ont toujours été considérées comme essentielles bien avant que le serment des magistrats les mentionne. Elles ont d'ailleurs fait l'objet de nombreuses décisions, tant de la Cour européenne des droits de l'homme que du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État et du CSM. Quant à l'exigence d'humanité, elle interdit notamment toute attitude d'arrogance ou de mépris envers le justiciable, y compris lorsque ce justiciable est poursuivi pénalement ou simplement mis en examen. Le secret professionnel et le secret des délibérations sont des notions plus précises. Leur violation est sanctionnée pénalement. Reste que le magistrat doit également se comporter en tout comme un magistrat digne, intègre et loyal. Les mots « en tout » ne sont pas sans incidence. Ils signifient que les règles déontologiques s'appliquent aux magistrats non seulement dans l'exercice de leur activité professionnelle, mais encore dans leur vie privée. Autrement dit, le magistrat doit éviter tout acte, expression ou comportement qui, rendu public, porterait atteinte à la dignité de sa fonction ou à la crédibilité de l'institution. J'y reviendrai. Cette exigence prend un relief tout particulier à l'heure des réseaux sociaux. Leur développement justifie que le CSM ait décidé de leur consacrer une partie de ses réflexions en 2024. Dans quelle mesure peut-on considérer que ces réseaux abritent des échanges privés ? Jusqu'où le magistrat peut-il faire état de sa qualité professionnelle ? Ce sont notamment ces questions, comme l'ensemble des questions déontologiques, qui sont au cœur des réflexions du Conseil supérieur de la magistrature. Et ce sont des questions pratiques autant que théoriques. C'est pourquoi le recueil des obligations déontologiques des magistrats, qui a été élaboré par le CSM, contient deux parties. La première, générale, définit les valeurs des magistrats. Ce sont celles que je viens d'énoncer. La seconde est une sorte de guide pratique articulé autour de différentes situations. Le magistrat, les technologies de l'information et la communication, le magistrat et ses proches, le magistrat et ses autres activités, le magistrat et ses engagements, etc. Ce guide fera l'objet d'un nouvel examen par le CSM dans les prochains mois, le législateur lui ayant demandé de rédiger une charte des obligations déontologiques. Il existe par ailleurs diverses instances de déontologie que les magistrats peuvent interroger. J'en le parlerai dans le temps de nos échanges, si vous le souhaitez. Jusqu'à présent, j'ai parlé de déontologie et non de discipline. Les deux notions ne se confondent pas. La déontologie ne définit pas des fautes, mais des principes de conduite. Elle ne s'inscrit pas dans une logique répressive, mais revêt une dimension préventive. Cependant, les principes sur lesquels reposent la déontologie et la discipline sont largement communs. Simplement, le socle de la discipline est moins large que celui de la déontologie, ce qui revient à dire qu'un comportement peut constituer un manquement aux obligations déontologiques sans constituer pour autant une faute disciplinaire. Depuis la loi organique du 20 novembre dernier, la faute disciplinaire est définie comme tout manquement par un magistrat à l'indépendance, à l'impartialité, à l'intégrité, à la probité, à la loyauté, à la conscience professionnelle, à l'honneur, à la dignité, à la délicatesse, à la réserve et à la discrétion ou au devoir de son État. Cette définition est plus complète que la définition antérieure. L'évolution qui a conduit d'un texte à l'autre est cohérente avec celle qu'a connue la formule du serment. Vous remarquerez que dans tous les cas, c'est une loi qui définit la faute. Ce n'est pas surprenant, puisque l'article 34 de la Constitution, qui fait le partage entre ce qui relève de la loi et ce qui relève du règlement, réserve au législateur la fixation des règles concernant le statut des magistrats. Or, les conditions dans lesquelles la responsabilité des magistrats peut être engagée relèvent de leur statut. Et de fait, la question est très sensible. Il est essentiel que les magistrats voient leurs responsabilités engagées lorsqu'ils méconnaissent leurs obligations. Il y va de la confiance de nos concitoyens dans l'institution. Mais il est tout aussi essentiel que les règles qui définissent la responsabilité ne soient pas conçues d'une manière tellement large qu'elles les conduiraient à prendre de mauvaises décisions. Tel serait le cas si l'on sanctionnait un magistrat pour une décision qu'il a prise en toute conscience et en appliquant les critères qui s'imposaient à lui, mais qui se révélerait a posteriori inopportune. Prenons un exemple. Un juge de l'application des peines décide d'accorder une libération conditionnelle anticipée à un détenu dans des conditions conformes au code de procédure pénale. Supposons que le détenu ainsi libéré commette un meurtre à sa sortie de prison. S'il avait commis ce meurtre après avoir purgé sa peine jusqu'au terme prévu, on ne pourrait rien reprocher au juge. En revanche, la tentation est grande de le rendre responsable du meurtre dès lors qu'il a ordonné une libération conditionnelle, une libération anticipée. Si l'on cédait à cette tentation, on conduirait les juges de l'application des peines à se couvrir en refusant toute libération anticipée. Et pourtant, on sait que statistiquement, la libération conditionnelle favorise la réinsertion et diminue le risque de récidive, tout simplement parce qu'elle permet un suivi de l'intéressé, ce que ne permet pas en général une libération à terme. La crainte de voir leur responsabilité engagée dans un tel cas de figure conduirait donc les juges à prendre de mauvaises décisions. On voit ainsi que ce n'est pas dans l'intérêt particulier des magistrats, mais dans l'intérêt général, que l'acte juridictionnel doit échapper au champ disciplinaire. La voie normale pour contester une décision de justice n'est pas la mise en cause du magistrat, mais les voies de recours que constituent l'appel et le pourvoi en cassation. Néanmoins, il faut poser des limites à cette sanctuarisation de l'acte juridictionnel. En effet, il ne faut pas que, sous couvert de sa liberté d'appréciation, le juge en vienne à méconnaître les droits fondamentaux des justiciables. C'est pourquoi le statut des magistrats prévoit que constitue une faute, je cite, « la violation grave et délibérée par un magistrat d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive ». Vous voyez que le législateur a été prudent. Puisqu'il faut que la violation soit grave, délibérée, et qu'elle ait été constatée par une décision de justice définitive, c'est-à-dire une décision qui ne peut plus faire l'objet d'un recours. Il faut dire que cette prudence lui a été imposée par le Conseil constitutionnel, qui avait censuré une version précédente qui n'exigeait pas le constat préalable dans une décision de justice devenue définitive de la violation des devoirs de son office par le magistrat. Le Conseil constitutionnel a estimé que cette définition trop large de la faute portait atteinte au principe constitutionnel d'indépendance de l'autorité judiciaire et de séparation des pouvoirs. De fait, les sanctions infligées à des magistrats à raison d'un jugement ou arrêt qu'ils ont rendu sont rarissimes. Néanmoins, il en existe. Il est temps de dire maintenant quelques mots de la composition et de l'organisation du CSM, dont l'existence est consacrée à l'article 64 de la Constitution, lequel dispose que le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Le CSM comprend 12 magistrats et 8 personnalités extérieures. Le premier président et le procureur général de la Cour de cassation sont membres de droit. Les autres magistrats sont élus par leur pair. Il y a un premier président et un procureur général de cour d'appel, élus respectivement par les premiers présidents et les procureurs généraux des cours d'appel, un président et un procureur de tribunal judiciaire élus par leurs homologues. Les autres magistrats sont élus par l'ensemble des magistrats à partir de listes proposées par les syndicats de magistrats. Parmi les non-magistrats, il y a de droit un conseiller d'État élu par l'Assemblée générale du Conseil d'État, un avocat désigné par le Conseil national des barreaux et 6 personnalités qualifiées désignés respectivement par le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, chacun de ces présidents devant désigner un homme et une femme. Les commissions des lois des assemblées parlementaires peuvent mettre leur veto à l'une ou l'autre de ces désignations à condition de réunir au moins 3/5 des voix contre. Ce système est le même que celui qui existe pour d'autres autorités constitutionnelles, par exemple les membres du Conseil constitutionnel lui-même. Il existe d'ailleurs au moins un cas dans lequel une personne désignée a été écartée en raison d'un vote défavorable de l'une des assemblées. Les personnalités qualifiées sont souvent des professeurs de droit, mais il y a eu aussi des ambassadeurs, des administrateurs de l'Assemblée nationale ou du Sénat, et il y a actuellement une ancienne ministre de la Justice, Elisabeth Guigou, ici présente. S'agissant de la répartition entre magistrats et non-magistrats, la composition du CSM pris dans son ensemble n'est pas significative, car en réalité, aucune décision n'est prise par l'ensemble des membres du CSM. Le CSM siège en effet selon 3 formations différentes. Une formation compétente à l'égard des magistrats du siège, présidée par le premier président de la Cour de cassation, une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet, présidée par le procureur général près de la Cour de cassation, et une formation dite plénière, qui est présidée par le premier président, mais ne comprend pas tout le monde. Chacune de ces formations comprend l'ensemble des membres non magistrats, et on les appelle d'ailleurs membres communs, mais une partie seulement des magistrats. De sorte que, dans chacune de ces formations, les non magistrats soient toujours en majorité ou à parité avec les magistrats. Ça, c'est une règle qui est très importante. Dans aucune des formations du CSM, les magistrats ne sont majoritaires. Et c'est une mixité qui est essentielle. Elle permet de conjurer le risque de l'entre-soi dénoncé par certains. Ne pensez pas que les non-magistrats fassent de la figuration et qu'en réalité les décisions soient prises par les magistrats. Il y a parmi les non-magistrats des personnalités très fortes, dotées d'une riche expérience et d'une vraie connaissance de l'institution judiciaire. Passées les premières semaines pendant lesquelles elles doivent se familiariser avec les arcanes des carrières, la cartographie des juridictions, le langage codé des évaluations, les grades et les sigles tels que JJAP, JCP, VPLD, CCSG, PRA et autres VPA, les non-magistrats apportent une contribution essentielle aux discussions, que ce soit sur les nominations, dont je vais parler dans un instant, ou dans les procédures disciplinaires. Ces personnalités ont un regard qui est à la fois neuf et expérimenté. J'ajoute que si les discussions sont souvent longues et animées, le clivage ne se fait jamais entre magistrats et non-magistrats. D'ailleurs, il n'y a pas non plus les universitaires d'un côté et les praticiens de l'autre, ni non plus d'alliance entre ceux des magistrats qui représentent la hiérarchie judiciaire. J'ai parlé tout à l'heure de la pratique du délibéré. J'en ai une longue expérience pour avoir passé plus de 20 ans à la Cour de cassation, dont 8 sous la présidence de Bruno Cotte, qui était alors président de la Chambre criminelle, et je peux dire que les délibérés au CSM sont eux aussi des délibérés de qualité. Sur quoi délibérons-nous ? D'abord, sur les poursuites disciplinaires intentées contre des magistrats. La faute disciplinaire, dont j'ai donné la définition, peut être afférente à un comportement de la vie privée, dès lors que ce comportement porte atteinte à l'image de l'institution judiciaire. J'attire votre attention sur ce point. Un magistrat peut être sanctionné alors qu'on ne lui reproche aucun manquement professionnel, mais parce qu'il a commis, dans sa vie privée, des actes qui portent atteinte au crédit et à la confiance qu'il doit inspirer. Il peut s'agir de comportements sanctionnables pénalement. Un vol ou une agression sexuelle constitue une faute disciplinaire qui s'ajoute à l'infraction pénale et fera l'objet d'une sanction qui se cumule avec la sanction pénale. Mais il peut aussi s'agir d'un comportement qui n'est pas répréhensible pénalement. Le CSM a ainsi eu l'occasion de sanctionner un magistrat en raison de sa situation de surendettement ou de son addiction au jeu ou à l'alcool. Pour préparer la présente communication, j'ai cherché des exemples de fautes disciplinaires de ce type sous la Troisième République. Et j'ai constaté qu'un magistrat avait été condamné pour s'être battu en duel et un autre pour ne pas avoir ôté son chapeau devant un collègue. Je dois dire que je n'ai pas trouvé d'exemple similaire dans la période récente. Quant aux fautes commises dans l'exercice de l'activité professionnelle, elles peuvent être de toutes sortes. Il peut s'agir d'un comportement négligent, de retard récurrent dans le traitement des dossiers, d'un manque général d'organisation, etc. Mais il peut s'agir aussi d'un comportement inadéquat, soit à l'égard des justiciables, par exemple un ton méprisant à l'audience, soit à l'égard des avocats, des autres magistrats ou des greffiers. Le fait d'être systématiquement en retard à des réunions de service ou d'employer un ton agressif ou un langage trop cru peut être constitutif d'une faute disciplinaire. Cependant, le CSM tient compte, pour apprécier la faute, des conditions dans lesquelles le magistrat exerce son activité. Il a pu considérer, par exemple, que le retard pris par un juge d'instruction dans le traitement de ses dossiers ne constituait pas une faute disciplinaire compte tenu de la charge considérable à laquelle ce juge devait faire face. De même, dans une affaire où il était reproché à un juge d'instruction d'avoir refusé de recevoir une partie civile, dans un cas où aucun texte ne l'y obligeait, le CSM a pu considérer que ce refus était regrettable, mais qu'il ne constituait pas une faute disciplinaire compte tenu du nombre de dossiers dont le juge était saisi. Des propos tenus publiquement par un magistrat peuvent constituer une faute disciplinaire s'ils sont outranciers dans la forme ou sur le fond. Il y en a eu des exemples sous la Troisième République, notamment des magistrats qui accusaient le gouvernement d'athéisme ou mettaient en cause la forme républicaine de nos institutions, et il y en a encore aujourd'hui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le principe reste la liberté d'expression des magistrats. Il leur est loisible de porter une appréciation sur le fonctionnement de l'institution judiciaire et leur parole peut même être considérée comme enrichissant le débat public en raison de la connaissance particulière qu'ils ont du sujet. C'est ainsi qu'un juge d'instruction qui avait été en poste à Monaco et avait décrit le système judiciaire monégasque en des termes peu flatteurs a été mis hors de cause par le CSM, lequel a considéré notamment qu'il n'avait pas violé le secret professionnel et qu'il s'était exprimé de manière mesurée et argumentée sur un sujet d'intérêt général. Quelle est la procédure devant la formation disciplinaire ? L'action peut être engagée par le garde des Sceaux, par les premiers présidents et les procureurs généraux des cours d'appel et par les justiciables eux-mêmes. Lorsque l'action est engagée par le ministre, ce qui est le plus souvent le cas, ou par les chefs de cour, elle est généralement précédée d'une enquête administrative effectuée par l'inspection générale de la justice. C'est au vu des résultats de cette enquête que l'autorité poursuivante retient un certain nombre de griefs. Quant aux justiciables, leur droit de déposer une requête a été introduit par une loi de 2008, mais jusqu'à tout récemment, ils ne pouvaient se plaindre que du comportement d'un magistrat dans l'exercice de ses fonctions et une fois que celui-ci n'était plus saisi. Depuis la loi organique du 20 novembre 2023, ils peuvent aussi se plaindre d'un magistrat qui abuse de ses fonctions, c'est-à-dire qui agit en dehors d'une procédure dont il est saisi, mais en se prévalant de sa qualité de magistrat. On peut imaginer, par exemple, un magistrat qui interviendrait auprès d'un collègue pour l'inciter à prendre une décision favorable à un ami. Cependant, les justiciables ne peuvent pas saisir directement le CSM. Il y a un filtre constitué par une commission des requêtes composée de deux membres magistrats du CSM et deux membres non magistrats. On retrouve ici la parité. Il y a plus de 300 requêtes de justiciables par an et la plupart d'entre elles ne passent pas le filtre parce que le justiciable se plaint non pas du comportement du magistrat, mais de la décision qu'il a rendue et qui, dans la plupart des cas, fait au moins un mécontent. Autrement dit, pense que le CSM est une instance de recours. Il faut ajouter à cela que de nombreuses requêtes sont confuses ou déposées avant que le magistrat soit dessaisi. Et pourtant, le CSM a lui-même établi un formulaire de plainte en ligne qui facilite la tâche des justiciables. Le CSM ne peut pas s'auto-saisir, mais une fois saisi, il n'est pas cantonné aux griefs qui figurent dans l'acte de saisine. Il peut en retenir d'autres, car il est juge de l'ensemble du comportement du magistrat poursuivi. Autrement dit, il n'est pas saisi in rem, mais in personam. Cette possibilité d'étendre la saisie à d'autres fins est d'ailleurs contestée actuellement devant la Cour européenne des droits de l'homme. La procédure disciplinaire s'apparente à une procédure pénale. Un rapporteur est désigné. Il procède à une instruction du dossier en entendant le magistrat concerné, ainsi que toute personne susceptible d'apporter un éclairage sur son comportement. Il rédige ensuite un rapport qu'il lit en début d'audience, puis le représentant du ministère expose les griefs qu'il entend retenir. Le magistrat s'explique et répond aux questions. Il est généralement assisté d'un avocat et d'un représentant syndical. Ensuite, les membres de la formation délibèrent, mais sans le rapporteur, et rendent une décision écrite. Lorsque le magistrat poursuivi est un magistrat du siège, la formation rend une véritable décision, alors que lorsqu'il s'agit d'un magistrat du parquet, la formation disciplinaire rend un simple avis que le ministre n'est pas obligé de suivre. Dans tous les cas, la formation disciplinaire se prononce sur l'existence ou non d'une faute et, le cas échéant, sur la sanction. Le Conseil ne peut prononcer que l'une des sanctions prévues par les textes. Elles vont du blâme à la révocation, en passant par le déplacement d'office ou l'interdiction d'exercer certaines fonctions. Les décisions du CSM sont mises en ligne sur son site après avoir été anonymisées. Vous pouvez donc accéder à toutes les décisions, même anciennes, ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur la jurisprudence du Conseil. Enfin, chaque décision du CSM peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État qui examine si elle a été rendue conformément aux règles de droit, à la fois les règles procédurales et les règles substantielles. J'en viens au rôle du CSM dans la gestion des carrières. Il faut là aussi faire une distinction entre les magistrats du siège et ceux du parquet. Toute nomination ou mutation d'un magistrat du siège doit recevoir l'accord du CSM. Ce qui fait que le CSM examine plus de 2000 dossiers par an. Les magistrats du siège sont inamovibles, mais il faut bien reconnaître qu'ils demandent souvent à changer de poste. Dans certains cas, le Conseil a même un pouvoir de proposition, ce qui revient à dire que c'est lui qui choisit les magistrats qui vont occuper telle ou telle fonction. C'est le cas pour toutes les fonctions du siège à la Cour de cassation, mais aussi pour les fonctions de président d'un tribunal ou de premier président d'une cour d'appel. Pour les magistrats du parquet, le CSM ne fait que donner un avis, mais dans la pratique, cet avis est toujours suivi par le ministre. En revanche, il n'a jamais de pouvoir de proposition. Le pouvoir de veto, qu'il soit en droit pour les magistrats du siège ou en fait pour les magistrats du parquet dont dispose le Conseil, en dehors des cas dans lesquels il dispose d'un pouvoir de proposition, lui permet de discuter avec la chancellerie en vue de déterminer des règles générales de gestion du corps. Certaines règles sont prévues par la loi et le CSM, comme le ministère, doivent les appliquer sans possibilité d'y déroger. Par exemple, la règle selon laquelle certaines fonctions spécialisées, juge d'instruction, juge des enfants, ne peuvent pas être occupées pendant plus de 10 ans, ou la règle selon laquelle un chef de juridiction ne peut pas l'être pendant plus de 7 ans dans la même juridiction. Mais d'autres règles, qu'on appelle des règles de gestion, ont été instituées d'un commun accord entre le CSM et la direction des services judiciaires. Par exemple, la règle selon laquelle, sauf exception, on doit rester dans un poste pendant au moins 3 ans avant d'en demander un autre. Certaines règles de gestion ont été entérinées par le législateur et sont donc devenues des règles statutaires. Il en va ainsi de la règle selon laquelle on ne peut pas passer du parquet au siège dans un même ressort avant un certain délai. De même, le CSM s'entend avec la chancellerie pour décider que, pour certaines fonctions qui nécessitent des compétences particulières, on va déroger aux règles habituelles de l'ancienneté et privilégier les candidats qui ont le profil le plus adéquat. Tel est le cas, par exemple, pour les magistrats appelés à composer les pôles antiterroristes ou les pôles de lutte contre la criminalité organisée. Tel est également le cas pour les fonctions de président de la cour d'assises ou de conseiller à la Chambre de la régulation économique qui, à Paris, traite des recours contre les décisions de l'autorité de la concurrence ou de l'autorité des marchés financiers. On touche là à une difficulté de la gestion du corps. Dans une juridiction petite ou moyenne, il faut des magistrats généralistes, car la taille ne permet pas d'avoir des chambres très spécialisées. Et il faut pouvoir répartir les effectifs en fonction des besoins. Mais dans une grosse juridiction, il faut aussi des spécialistes, sous peine que des pans entiers du contentieux soient maltraités ou qu'ils soient soustraits à la justice par les justiciables mêmes au profit soit d'un autre mode de règlement des conflits, tel que l'arbitrage, soit au profit de juridictions d'autres pays. Qui dit spécialiste dit aussi filière de spécialité, avec le risque de carrière plus ou moins rapide, selon qu'on est ou non dans une filière. Parmi ces filières figure celle de chef de juridiction. Le chef de juridiction est notamment un gestionnaire qui doit avoir des compétences administratives et budgétaires. Le NM organise d'ailleurs un certain nombre de formations à cet égard et le CSM tient compte du fait que le candidat a ou non suivi ces formations. J'en profite d'ailleurs pour dire que la formation continue n'est pas seulement un droit pour le magistrat. C'est aussi une obligation qui trouve son fondement dans ce que je disais tout à l'heure, à savoir que les connaissances du juge sont un ingrédient de sa légitimité. C'est pourquoi, dans son activité de nomination, le CSM tient compte des formations suivies par les candidats. À l'idée de formation se rattache une réforme qui va entrer en vigueur prochainement et qui consiste à prévoir une formation élargie ou formation évaluation dite à 360 degrés pour les chefs de cour et de tribunaux. Pourquoi élargie ? Parce qu'elle sera faite par un collège qui comprendra non seulement des magistrats ou anciens magistrats, mais encore des personnalités qualifiées ayant une compétence spécifique en matière de gestion des ressources humaines ou budgétaires. Ce collège fondera son évaluation sur les appréciations émanant du milieu professionnel de l'intéressé. Cette évaluation donnera au CSM des éléments d'information utiles lorsqu'il devra statuer sur la candidature d'un chef de juridiction à d'autres fonctions de chef de juridiction. Mais elle peut aussi se rattacher aux exigences de formation, car cette évaluation est conçue comme devant permettre à chaque chef de juridiction de s'interroger sur sa pratique. C'est donc une évaluation à vocation formative, comme doit d'ailleurs l'être toute évaluation. L'évaluation élargie est déjà pratiquée dans d'autres ministères, notamment celui des affaires étrangères. L'évaluation élargie s'ajoute à l'évaluation traditionnelle dont chaque magistrat, à l'exception précisément des chefs de cour d'appel et des conseillers avocats généraux de la Cour de cassation, font l'objet. Cette évaluation a lieu tous les 2 ans. Elle est faite par le premier président de la Cour d'appel et donne lieu à un écrit que l'intéressé peut discuter et qui est versé ensuite à son dossier, par le procureur général, bien entendu, quand il s'agit d'un magistrat du siège, du parquet. Le CSM en a connaissance et en tient compte, tant dans son activité disciplinaire que dans son activité de nomination. Pour en revenir aux qualités attendues d'un président de juridiction, il n'est pas seulement un administrateur, il doit rester également un juge, capable de définir des priorités pour sa juridiction et de répartir les effectifs en conséquence. Il est bon qu'il garde d'ailleurs lui-même quelques activités juridictionnelles. Le CSM hésite à nommer à la tête d'une grosse juridiction un magistrat qui n'a jamais géré aucune juridiction. Mais il voit avec une certaine faveur qu'un président d'une juridiction moyenne occupe ensuite des fonctions purement juridiques avant de prendre à nouveau la tête d'une juridiction. Lorsqu'il choisit un chef de juridiction, le CSM tient compte des caractéristiques particulières de cette juridiction, notamment des difficultés qu'elle peut connaître. Il y a par exemple des juridictions peu attractives qui sont composées en grande partie de jeunes magistrats qui n'ont pas demandé à y venir et cherchent à en partir. Et il y a des juridictions qui connaissent la situation inverse. Il faut aussi tenir compte de la spécificité des contentieux, de la personnalité de l'autre chef de juridiction avec lequel le candidat sera amené à cohabiter dans une hiérarchie dont il est souhaitable qu'elle soit harmonieuse. C'est pourquoi le CSM s'informe des caractéristiques d'une juridiction avant d'y nommer un président ou un procureur. Et c'est pourquoi aussi il visite, au cours de sa mandature, toutes les juridictions françaises, y compris celles qui sont situées outre-mer. Ces visites, outre qu'elles lui fournissent des informations utiles pour le choix des personnes qu'il nomme, lui permettent également de signaler à la chancellerie des dysfonctionnements particuliers. Il reste à évoquer un dernier aspect des missions du CSM. Il s'agit des avis qu'il rend à la demande du président de la République ou à la demande du garde des Sceaux. C'est ainsi qu'il a rendu tout récemment un avis sur la liberté d'expression des magistrats et qu'il avait rendu auparavant un avis sur leur responsabilité. Pour rendre son avis sur la responsabilité, il avait procédé à de nombreuses auditions et organisé des colloques auxquels ont participé notamment des universitaires, mais aussi des journalistes. Par ailleurs, le CSM est généralement consulté sur les projets ou propositions de loi qui intéressent l'institution judiciaire. Tel fut notamment le cas pour les deux lois déjà mentionnées du 20 novembre dernier, même si cette consultation a été quelque peu tardive. Au-delà des avis que le président de la République ou le garde des Sceaux peuvent lui demander, le CSM a pris l'habitude de faire des communiqués de presse lorsqu'il estime qu'une atteinte a été portée à l'indépendance de l'institution judiciaire, notamment du fait de déclarations publiques émanant de la sphère politique ou administrative et mettant en cause dans des termes inacceptables telle ou telle décision de justice. Pour alimenter sa réflexion, le CSM procède, tout au long de sa mandature, à de nombreuses rencontres avec des personnes ou des institutions. Par exemple, les présidents des commissions des lois des assemblées parlementaires, le directeur de l'École nationale de la magistrature, le défenseur des droits, les présidents ou membres des juridictions européennes, sans parler de la presse. Enfin, le CSM a une activité internationale assez soutenue, que ce soit à travers sa participation à des réseaux de conseils de justice ou à travers des rencontres bilatérales avec tel ou tel de ses homologues étrangers. Il s'agit ici à la fois d'échanger sur des pratiques qui pourraient inspirer chacun des conseils de justice et de marquer une solidarité face à des attaques dont l'un ou l'autre de ces conseils fait l'objet. Il n'est pas besoin d'aller très loin en Europe pour constater que les attaques contre l'état de droit commencent souvent par la mise en cause du rôle et de la composition des conseils de justice. Je me suis interrogé, en commençant mon propos, sur les raisons pour lesquelles la place du CSM n'a fait que croître. Je le conclurai en disant qu'il est indispensable que cette évolution se poursuive, étant entendu que les deux aspects de sa mission sont indispensables et indissociables. Le CSM protège l'indépendance des magistrats, mais en retour, il fait preuve à leur égard d'une exigence stricte, tant sur le plan des compétences professionnelles que sur celui de la déontologie. L'une ne va pas sans l'autre. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Je souhaitais que vous nous aidiez, mes consoeurs, mes confrères et moi-même, à mieux connaître ce que sont les juges en 2024 en France, comment leur responsabilité peut être engagée, comment on accède à des postes de responsabilité, ce que sont ces notions de liberté d'expression, d'indépendance. Vous nous y avez, je crois, aidé. Et vous avez superbement respecté votre temps de parole. alors que l'on a reculé le moment où vous pourriez la prendre. Pour cela aussi, soyez remerciés.